Bienvenue dans Moderne, le podcast du Marais Mood. Moderne est un podcast produit par le Marais Mood, le média du Marais et de Paris Centre. Je suis Katia Barrio, rédactrice en chef du Marais Mood. La mission de Moderne, vous raconter ce qui se passe dans le Marais en matière de mode, food, beauté, bien-être, déco, etc. avec un spécialiste qui va nous éclairer. Merci à notre sponsor, l'Agence des Enfants Rouges. Cette agence immobilière de proximité est incontournable avec ses 50 situées dans les quartiers de Bretagne, Place des Vosges, Oberkampf et Saint-Martin. Aujourd'hui dans Moderne, nous allons nous intéresser aux brocantes car nécessité économique ou geste pour la planète, le marché des biens d'occasion est en plein essor. Aussi, brocantes et vide-greniers se portent bien et année après année, ils grignotent des parts sur le neuf. Dans le Marais, il y a plusieurs brocantes, mais celle qui remporte tous les suffrages, c'est celle de la rue de Bretagne. C'est certainement la plus courue de Paris, pour ne pas dire de France. Et oui, j'insiste, mais on va y revenir. Sûrement parce qu'elle est et demeure pointue. Et cerise sur le gâteau, elle a lieu deux fois par an, une fois au printemps, une autre fois à l'automne. Pour en parler, nous recevons Camille Griveaux. Qui choisit les brocanteurs qui vendent du mobilier? Charles Eames, Pierre Paulin, Vernon Panton. Elle est aussi celle qui s'occupe du marquage des emplacements, qui prévoit le matériel, le food truck qui va bien, la sécurité d'un pareil événement. Bref, elle organise tout, tout, tout. Bonjour Camille.
Bonjour Katia.
Alors, est-ce que j'ai raison? C'est vous qui êtes le grand Manitou de la brocante?
C'est moi qui suis le grand Manitou de la brocante, donc qui fait tout, qui fait le marquage. J'ai déjà essayé de le faire faire, mais ça n'a jamais marché en fait. Il faut vraiment faire les choses soi-même pour que ça soit parfait. Donc, comme tu le verras, je suis un petit peu tatillonne sur plein de choses pour que l'événement se passe bien.
Bon alors, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui, quelques jours de cette fameuse brocante que le monde entier nous envie?
Alors, je suis toujours stressée, surtout 15 jours avant le début de la brocante. Ce matin encore, j'étais rue de Bretagne et à l'angle Turenne-Bretagne, il y a plein de tentes de tournage. Donc, je suis allée les voir pour savoir s'ils partaient bien pour la semaine prochaine. Il y a deux ou trois échafaudages. Donc, c'est plein de petites choses voilà, qui peuvent...
Enrayer la machine.
Exactement, enrayer la machine. Et avec le nombre d'exposants qui va arriver la semaine prochaine dans le troisième, ben, ce n'est pas vraiment le moment.
Bon, qu'est-ce que c'est que ce tournage?
C'est un tournage de film. Il tourne au Progrès, je crois. Et voilà, toute la place Turenne est envahie de tentes. Et nous avons des exposants place Turenne.
Alors, la brocante biannuelle du Marais, elle se déroule quand exactement? Et à part la rue de Bretagne, elle se déploie où, cette fameuse brocante?
Alors, la brocante a lieu deux fois par an, en mai ou juin. Donc là, la date peut varier parce qu'on n'organise pas la brocante quand il y a un grand pont et que les Parisiens... sont tous partis. Et il y en a une autre qu'on appelle la brocante de Noël, hein, qui a lieu fin novembre, au moment de l'inauguration des illuminations de Noël de la rue de Bretagne. Donc elle a lieu donc rue de Bretagne, qui est la principale artère de la brocante. Elle avait lieu rue Perret, mais on a arrêté de la faire rue Perret parce qu'il y a les travaux du futur commissariat Paris-Centre.
Oui.
Donc on ne va pas mettre une brocante au pied d'un commissariat. Tout autour de la mairie Paris-Centre, donc rue Spuller, rue Caffarelli, rue Perret, mais sur la petite portion le long de la mairie, et également sur la petite placette Turenne qui est située au bout de la rue de Bretagne.
Oui, là j'ai déjà vu même des voitures anciennes, mises à prix, enfin en tout cas... Tu n'avais pas vu ça, des
non,
Fiat très jolies.
Non, j'ai pas vu. C'était peut-être un autre événement sur.
Non, c'était cette à une année de brocante.
Ah oui,
ouais.
Eh ben peut-être.
Bon, ben,
j'ai
ça, loupé ça.
Ça
m'étonne que ça t'ait échappé. Alors, combien ont des nombres de stands dans cette fameuse brocante?
Alors, il y a à peu près 250 stands.
C'est énorme.
C'est énorme, sachant qu'on en a moins qu'avant puisqu'on a supprimé la rue Perret et qu'aujourd'hui il y a un espacement un peu plus important entre chaque stand pour respecter les gestes barrières. Donc on a perdu quand même pas mal de stands et on a surtout nos petits chouchous dans la cour de la mairie le samedi et le dimanche qui sont les enfants.
Ça c'est génial, c'est une super initiative et je crois que c'est très rare.
Alors ça se fait de plus en plus mais c'est jamais intégré en fait aux brocantes. Nous on est un petit peu la seule brocante qui va mélanger les particuliers, les professionnels et les enfants. Donc ça fait une jolie alchimie et voilà, tout le monde est content, tout le monde peut trouver soit un petit truc à 50 centimes ou soit un fauteuil de designer à 5000 euros.
Alors toi, tu les connais tous ces gens, comment tu fais pour les choisir? Tu as appris à les connaître, mais j'imagine que quand quelqu'un vient pour la première fois, tu ne peux pas savoir ce qu'il va vendre, si ça va être de vrais objets anciens, de vrais objets vintage. Comment on fait pour percevoir qui sont les gens?
Alors déjà, on a le luxe, nous, enfin moi je prends le temps de leur parler personnellement, donc on fait un petit entretien par téléphone. Je leur demande de m'envoyer une photo d'un stand qu'ils ont pu faire sur une autre brocante pour voir si la marchandise va plaire et va pouvoir s'intégrer à la rue de Bretagne. Voilà, tout simplement. Donc c'est du cas par cas. Ça nous est déjà arrivé de nous tromper, voilà, que quelqu'un s'inscrive, même en temps de particulier, et qu'ils vendent des coques de téléphone neuves, mais c'est pas du tout du tout la marchandise qu'on recherche. On n'est pas une foire de Noël, on n'est pas un marché de Noël, on veut vraiment rester une brocante.
Alors justement, je disais en souriant presque au tout début que c'est une brocante que le monde entier nous envie. Tu m'as parlé de touristes ou de gens qui t'appellent du Japon ou d'Italie pour te demander quand aura lieu cette brocante pour s'y inscrire.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent annuellement ou biannuellement acheter des choses sur cette brocante en particulier et qui me contactent 2 mois avant pour prendre leur billet d'avion parce qu'ils viennent des États-Unis, du Japon, d'Australie. Et voilà, ils viennent chiner sur la brocante de la rue de Bretagne. Donc ils en profitent forcément pour visiter Paris, mais ils calent leur date de voyage en fonction de la brocante.
Mais c'est génial.
Donc c'est très drôle, ça me fait très plaisir et voilà, j'adore.
Alors c'est quoi ta formation? Est-ce que tu as toujours été, comment on appelle ça dans les nouveaux postes, il y a enjoyment chef, le chef du loisir dans les entreprises où tout le monde travaille énormément. Qu'est-ce que tu faisais avant?
Alors pas du tout, moi j'ai une formation de psychologue environnementale, qui était un métier peu connu il y a 20 ans, mais qui aujourd'hui revient en force. Et j'ai toujours travaillé auprès d'élus municipaux sur des thématiques de leur politique, que ce soit la thématique sociale, la prévention de la délinquance, la sécurité. Et en 2007, je suis arrivée dans le 3e pour diriger une association qui faisait de l'animation locale. Et je trouve ça très important, l'animation locale, parce qu'on s'approprie son environnement, parce qu'on l'aime, parce qu'il s'y passe des belles choses. Donc c'était aussi la continuité de ma formation.
Ça renforce l'esprit village, on a l'impression d'appartenir à une même communauté.
Exactement. Et pour respecter un environnement, ne pas jeter ses déchets par terre, il faut qu'on s'approprie cet environnement. Et je pense qu'en organisant des animations locales, des animations qui rassemblent, ça participe à intégrer son environnement dans la vie quotidienne.
Alors tout à l'heure, tu as parlé des gens qui viennent vendre dans cette brocante, des Marisiens qui viennent avec leurs affaires, et puis les professionnels. Comment on crée l'osmose entre ces deux entités qui sont des gens qui n'ont un peu rien à voir?
Alors ça se passe très bien. On a plus des endroits qui sont dédiés aux professionnels comme la rue de Bretagne, mais on a aussi des particuliers qui ont des stands rue de Bretagne. La rue Caffarelli par exemple, elle sera plus mixte entre professionnels et particuliers, mais vraiment ça se passe très bien. Et il y a eu aussi une alchimie assez incroyable entre les habitants, des habitants qui se sont rencontrés sur la brocante, qui sont devenus amis. Ça, je trouve ça juste formidable. On a même des cousins éloignés qui se sont retrouvés par hasard côte à côte à la brocante.
Non.
Et qui se sont retrouvés. Les messieurs Véry se reconnaîtront. Je leur enverrai cet enregistrement. Et enfin, c'est incroyable. Il y a même des mobilisations. C'est des contes de Noël, quoi. Il y a une dame qui a perdu malheureusement son mari l'année dernière, qui était un féru de la brocante. Il venait tous les ans. Il était là même le jeudi matin à la première heure, pour voir si sa place était bien marquée au sol. Et il est brutalement décédé l'année dernière. Et sa femme s'est retrouvée en difficulté financière, en fait. Elle s'est retrouvée brutalement veuve assez jeune. Et tous ces voisins de Brocante qui connaissaient très bien cet homme qui était charmant se sont mobilisés autour d'elle, l'ont aidée. Nous, on lui a offert son emplacement pour qu'elle puisse vendre des affaires, parce que économiquement, c'était aussi une nécessité pour elle d'arrondir ses fins de mois. Ils avaient une adolescente à charge. Donc,
c'est ton téléphone, voilà. C'est pas grave.
Oui,
non. Alors, ce sont certainement des marchands, des brocanteurs qui veulent avoir des dernières infos.
Certainement.
Je ne sais pas si tu connais ce livre, mais Emmanuel Layon, qui est l'auteur du Guide du Chineur, qui est paru aux éditions du Chêne, dit que la brocante nous valorise et valorise la démarche anti-gaspillage. Est-ce que tu as vu venir cette tendance qui consiste à penser qu'acheter d'occasion n'est plus une honte, ou bien au contraire que c'est un geste éco-responsable? D'ailleurs, quand est-ce que ça a commencé, cette brocante, et sur quelle base?
Alors, on va parler du début de la brocante. Donc la brocante, elle est née en 1996.
Ah oui.
À l'époque, Michel Chaudançon. Est-ce que tu connais Michel Chaudançon, qui
non.
avait une boutique rue de Bretagne, au 14 rue de Bretagne, une boutique d'antiquité.
Oui, je vois très bien.
Qui s'appelait Hier, Aujourd'hui, Demain. Mmh. Adore l'esprit brocante. Et ils ont organisé la première brocante de la rue de Bretagne, enfin du troisième, qui ne devait pas s'appeler à l'époque la brocante de la rue de Bretagne, juste à l'intérieur de la cour de la mairie du troisième.
D'accord.
Et dans les couloirs de la mairie du 3e.
Non, si. Ce ne serait plus possible aujourd'hui.
Donc ça a commencé en 1996 et puis elle s'est petit à petit développée tout doucement, elle s'est enrichie. Et voilà, le fait que ça se soit fait petit à petit fait peut-être qu'aujourd'hui c'est une brocante aussi reconnue que celle qui existe actuellement. Moi je suis arrivée qu'en 2007, donc elle était déjà...
Presque dix ans plus tard,
elle était déjà assez imposante. Puis il y avait tout le tour du carreau du temple. Donc aujourd'hui, comme il y a les événements du carreau, on ne déballe plus autour du carreau du temple. C'est trop compliqué au niveau de la logistique. Mais voilà, et du coup, j'ai continué dans cette ligne. Je suis réputée pour être plus sévère que Julien Bénard avec les exposants. Vraiment interdisant les objets neufs, en faisant respecter les métrages, pour que l'entente aussi se fasse bien avec les commerçants de la rue de Bretagne. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les commerçants et les exposants vont cohabiter pendant tout un week-end. Voilà, du coup, je les contrains à une certaine discipline.
Alors justement, est-ce qu'ils sont contents, ces commerçants des rues Perret, Bretagne, etc.?
Alors oui, parce que oui, ils sont contents. Les gens qui viennent à la brocante, ils ne font pas que venir sur la brocante.
Ils
vont manger, ils vont boire, ils vont repérer telle ou telle boutique qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc ils en profitent pour venir passer une journée ou un week-end dans le 3e arrondissement.
Et ça, c'est génial pour l'économie.
Et ça, c'est génial. Après il y a peut-être des commerçants pour qui ça leur apporte moins de clients, je sais pas moi.
Mais en général,
des enfants rouges, une agence immobilière, je ne sais pas.
Notre sponsor.
Ou voilà, mais pour eux c'est un bon week-end. Ils vont bien travailler. Il y a beaucoup de monde. On est à peu près à 10 000 visiteurs par jour sur la brocante de la Bretagne, ce qui est énorme. Oui.
Est-ce qu'à cette petite fête un peu de village, s'est ajoutée donc la composante éco-responsable? Est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce que les gens t'en parlent?
Alors oui, alors moi je ne l'ai pas forcément vu par la brocante, ce mouvement venir. Je l'ai vu par mes enfants, tout simplement. J'ai une fille qui a 17 ans, comme la tienne. Ma fille ne s'habille que en vêtements de seconde main. C'est-à-dire que... à partir de 12 ans, elle n'a plus voulu acheter des vêtements de fast fashion. Sans nommer des grandes anciennes. Mais elle ne s'habille qu'en friperie, que sur les brocantes, que sur des sites qui vendent des vêtements de seconde main. Et on a de plus en plus de demandes de gens qui veulent du vêtement vintage sur la brocante. Il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, sur les brocantes, on ne voyait pas de jeunes, on ne voyait pas d'étudiants, on ne voyait pas de jeunes couples. Et je sais pas, moi, j'allais faire les brocantes avec mes parents les week-ends en tant qu'adolescente. Ça me barbait, c'était un truc de vieux. C'était, et aujourd'hui, en fait, les jeunes viennent se meubler sur la brocante. Pourquoi ? Bah parce que déjà, ils sont sensibilisés à tous les problèmes d'environnement qui peuvent être créés par la surconsommation de masse. Et voilà, les meubles, pas fast fashion, mais fast design.
Oui, bien sûr, c'est la même chose.
Design, et du coup, c'est vraiment un engouement. Ça fait les 5 dernières années, c'est énorme, quoi. C'est énorme.
D'autant plus que dans notre brocante, il y a quand même pas mal de fashionistas qui vendent des vêtements qu'elles ont achetés dans des soldes de presse. Et donc, c'est pas mal.
Oui.
Hein ? On a beaucoup de chance.
Oui, on en a beaucoup. Donc, c'est vrai qu'on a de belles marques à des prix défiant toute concurrence. On a aussi des stands de vintage, vraiment du Yves Saint Laurent qui a 30, 40 ans, des choses qui valent un petit peu plus d'argent. Mais voilà, et puis aujourd'hui, acheter un Levi's sur la brocante ou acheter un Levi's dans une boutique de fast fashion, ça sera le même prix. Donc les jeunes aujourd'hui préfèrent acheter des belles pièces, des belles matières, des pièces qui ont vécu, qui ont une âme, voilà, plus que des choses complètement neuves et sans âme, quoi.
Bon alors, en 2019, les objets vintage que l'on réclamait à corps et à cri étaient le miroir soleil. Vous savez, ce fameux miroir avec le cadre en osier, l'établi ou le banc en bois avec les stigmates du temps, la carafe rétro à l'orée de 2022. Quelles sont les tendances ? Je sais que tu les connais. Camille, dis-nous tout.
Alors, on est en plein, en ce moment, dans le 70. Donc, le 70, on sort de la vague minimaliste de tout ce qui était scandinave. On veut des choses, des couleurs chaudes, des objets colorés et qui soient fun dans nos intérieurs. Donc, c'est les fauteuils tout en rondeur, aux couleurs acidulées, toniques. Ce qui a aussi énormément de succès, c'est les céramiques. Donc, tout ce qui est céramique,
grosse tendance,
moment, mais ça cartonne. Les seaux à glaçons. Alors ça, gens cherchent les seaux à glaçons.
En forme de pomme.
En forme de pomme.
De poire. Je me rappelle.
Voilà, c'est des matériaux qui sont des matériaux synthétiques dans les années 70. On faisait des choses en plexi, en plastique.
Ce qu'on voyait chez nos parents, chez nos grands-mères.
Exactement, chez nos grands-mères. Moi, j'avais ça chez ma grand-mère. Donc le grand retour du papier peint.
Peps.
Psychédélique Peps. Mais on passe doucement aux années 80.
Ah ouais.
Voilà, donc les années 80 qu'on a connues, parce que moi, quand j'étais enfant, c'était les années 80. Hein. Donc les années 80, on va être sur des choses beaucoup plus... des formes plus anguleuses. Tout ce qui est couleurs primaires, le fameux Rubik's Cube, quoi. On est dans le rouge, le vert, le jaune. Et on est également sur tout ce qui va être forme inédite, déstructurée. Donc le 80, il y a 10 ans, ça ne marchait pas du tout sur la brocante. Enfin, il y avait des stands, c'était beaucoup trop proche de nous. Il y a des petites choses que vous pourrez chiner sur la brocante, des petits objets. Tout ce qui est, par exemple, le petit mobilier de Stark ou tout ce qu'il a fait en vaisselle, ça, c'est vraiment à trouver sur la brocante. Et c'est maintenant qu'il faut le chiner. Je vais vous donner un autre exemple. Le tabouret de bar duplex très coloré avec les pieds ondulants. Ou alors un petit truc à chiner. Moi, j'aimerais bien le trouver pour ma petite dernière. C'est le fameux bureau crayon.
Ah oui, ça c'est trop
donc,
mignon.
C'était un bureau en forme de cahier à spirale. Donc le plateau, c'est un cahier à spirale. Et les quatre pieds, c'est des gros crayons de couleur, de chaque couleur. Donc ça, c'est du typique années 80. Et c'est la grande tendance, donc on va dire 2022-2023. Puis après, on passera aux années 90.
Mon Dieu, pas trop vite.
Voilà.
Alors, le saviez-vous, plus d'un Français sur deux se prête au jeu de la brocante. 54% des Français ont acheté ou vendu au moins un objet en brocante en 2019. 12% de la population fréquente les vides-greniers chaque mois et 5% s'y rendent toutes les semaines. Est-ce que tu es une grande amatrice de brocante, toi, à titre personnel ?
Ouais, j'ai toujours été une grande amatrice de brocante. Donc quand j'étais petite, ça me barbait. Enfin, mes parents sont des grands amateurs de brocante. Ce n'est pas des collectionneurs, c'est des accumulateurs. Ils ont des objets de, je pense, tous les siècles, toutes les années. Et oui, j'y vais. Dès que je suis dans un endroit, je regarde s'il n'y a pas une brocante. Donc souvent, je vois parfois, je rencontre des exposants qui sont rue de Bretagne. Donc ça, c'est le côté très sympathique. Je commence à m'habiller avec des vêtements de seconde main. Donc ça, c'était pas trop dans... C'était pas quelque chose qu'on faisait beaucoup. On allait un petit peu peut-être aux puces de Saint-Ouen quand on était...
Quand on était étudiant, parce qu'on avait des envies bien
voilà,
précises.
Des envies, des jeans, les bidis. Enfin, c'est tout un univers. Mais voilà, je... Et ma fille m'a fait vraiment renouer avec, avec tout ce qui est vêtements de seconde main. Donc j'achète beaucoup de choses à la brocante de la rue de Bretagne. Hein, comme j'y suis beaucoup longtemps... 12 heures
les
par
tentations.
Jour, donc les tentations sont nombreuses, oui, donc j'adore les brocantes, j'adore les brocantes.
Et alors, est-ce que donc c'est plutôt de la mode, des objets aussi?
C'est de tout, alors beaucoup d'objets.
Quelle est la dernière chose que tu as trouvée dans une brocante?
La dernière chose que j'ai trouvée dans une brocante... attends que je réfléchisse, que je ne te dise pas de bêtises. Une dame Jeanne.
Ah, c'est beau ça.
Voilà, qui est très jolie. Voilà, c'est quelque chose de très classique, hein, mais qui a toujours autant de succès dans les brocantes. En un vert fumé bleu, c'est très joli. Ça décore tout de suite un intérieur. On met une petite fleur séchée à l'intérieur, c'est fantastique.
Alors ma mère en a une pas trop grande et elle fait des super ponches antillais, puisque je suis antillaise, dedans.
Ah mais c'est très bien, donc multi-usage, les vases, les ponches, c'est super.
Alors est-ce qu'il y a des objets interdits à la vente dans une brocante?
Oui, nous on interdit des objets, donc on fait signer une petite charte en fait au moment de l'inscription au brocanteur. Donc on interdit les objets neufs. Au moment du vide-grenier, voilà, les particuliers peuvent avoir un objet neuf à vendre. Ils ont reçu quelque chose qui est neuf, qu'ils ont eu à Noël dernier. Enfin, ils peuvent le revendre à la brocante, il n'y a pas de souci. Mais on ne va pas prendre un stand entier de... Voilà, je dis les coques de téléphone parce que c'est quelque chose... On est assez envahi par ça. Tout objet à caractère raciste ou scandaleux. Voilà, je veux dire, une croix gammée sur la brocante, ça ne va jamais passer. Il y a des choses qu'on interdit, mais les armes, voilà, ça me semble évident.
Nous ne sommes pas en Amérique, Dieu
voilà.
Merci.
Donc ça, c'est interdit. Et nous interdisons l'alimentaire. Donc on a un seul stand alimentaire,
oui,
qui est devant
j'ai remarqué.
La mairie. Et qui est un stand alimentaire de brocante classique qui va un petit peu participer au folklore de la brocante, où on peut acheter des saucisses frites, des glaces pour les enfants, voilà, des choses... pas très politiquement correct au niveau nutritionnel.
Mais qui font du bien.
Qui font du bien. Mais surtout, en fait, on a tellement d'offres alimentaires rue de Bretagne, entre les commerçants de la rue de Bretagne, les restaurants qui font de la vente à emporter, le marché des enfants rouges. Donc l'idée, c'est aussi que les commerçants de notre quartier, nos commerçants, profitent de la brocante. Et voilà, on profite pour vendre à manger, à boire... tout ce qu'ils veulent.
Bon alors, si vous rêvez d'acquérir du mobilier scandinave, même si Camille nous a dit qu'on tirait vers la fin, des sièges années 70, une gravure de zoologue du 19e siècle, des vinyles des années 80 ou des vêtements de journalistes de mode qui bazardent de belles pièces achetées en solde presse, c'est la brocante de la rue de Bretagne où il faut vous rendre, n'est-ce pas Camille?
Tout à fait. Et j'ai oublié, nous interdisons également les contrefaçons.
Bien sûr.
Donc on a les douanes qui passent régulièrement sur la brocante, donc on évite après, on n'est jamais à l'abri, mais c'est interdit.
Ah donc si j'achète un sac Chanel, je suis à peu près sûre à 95% que c'est un vrai.
Alors tu es sûre à 95%, donc, et si jamais il y a un souci, nous avons toute la liste des exposants qui sont notifiés dans un registre de police, et du coup il y a un recours possible, voilà.
Mais c'est formidable, c'est hyper bien
voilà.
Organisé.
Nous garantissons le service après-vente.
Alors, est-ce que c'est vrai, je l'ai dit, que notre brocante était exceptionnelle? C'est quand même vrai, non? C'est quand même... on n'a pas vraiment beaucoup de brocantes de cette qualité à Paris. Et...
En fait, c'est une des seules brocantes qui n'est pas organisée par une entreprise professionnelle de brocante.
Ceci explique cela.
Voilà. Du coup, nous, on a le temps de faire du cas par cas, de régler les problèmes de chaque brocanteur, de chaque personne qui va chiner quelque chose à la brocante. C'est un petit peu de la dentelle, quoi. On passe énormément de temps à prendre les inscriptions, à sélectionner les stands, à faire de l'humain aussi. Hein, par exemple, il y a des particuliers qui viennent, qui ne payent pas leur emplacement parce qu'ils sont au RSA et que pour eux, c'est un complément de revenu. Du coup, nous, on a la possibilité, on a un statut associatif de faire comme ça. Et c'est un luxe, en fait, de pouvoir l'organiser comme ça, cette brocante.
Eh bien alors là, je suis très, très fière d'aimer cette brocante parce que moi, je suis une fan absolue de cette brocante.
Ben merci.
Où j'ai failli acheter plein de pièces et où j'ai acheté plein de pièces comme des vêtements, des sacs. J'ai eu des regrets aussi parce qu'il y a des choses que je trouvais très, très belles et je ne les ai pas achetées et après, j'ai regretté.
Ben, si un jour tu veux les revendre, en acheter d'autres, tu pourras prendre un stand à la brocante.
Ça m'est même déjà arrivé. En tout cas, merci beaucoup Camille.
Merci Katia.
Je rappelle que c'était Camille Griveaux qui organise ce grand barnum, ce truc incroyable qui est cette brocante. Vraiment très belle, très riche, avec plein d'exposants assez sympas la plupart du temps. Et on est très contents d'avoir ça dans notre quartier.
Ben, merci beaucoup Katia.
À bientôt.
À bientôt.
Et bonne brocante, hein.
Merci.
Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, à mettre un commentaire ou 5 étoiles, à suivre le Marais Mood sur Instagram, à découvrir les épisodes déjà en ligne, à parler de Moderne autour de vous. C'était Katia Barillo, fondatrice de Moderne, le podcast du site lemarais-mood.fr avec le soutien de l'agence immobilière des Enfants Rouges.